Laetitia Baldeschi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes stratégiste chez CPR Asset Management. On va parler de marché et de perspective avec vous. Comment vous abordez-vous? Peut-être pas cette nouvelle ambiance, mais c'est vrai qu'on parle de plus en plus de ce qui se passe aux États-Unis, de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, cette stratégie sur les marchés obligataires. Est-ce que vous êtes dans le consensus? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez calmement que la hausse arrivera au printemps 2015, comme on nous l'annonce?
Oui, c'est vrai que chez CPR Asset Management, nous sommes plutôt dans le consensus au niveau de la conjoncture américaine, de l'analyse de cette conjoncture américaine et de ses conséquences en termes de conduite de la politique monétaire. Alors, effectivement, nous envisageons plutôt un premier relèvement de taux effectué par la Réserve fédérale autour du mois de juin, alors au second trimestre très certainement, peut-être plutôt le mois de juin. C'est un petit peu plus tôt que ce qu'anticipe le marché obligataire, qui était plutôt sur le mois de septembre avant la réunion d'hier soir. Voilà, donc nous sommes plutôt sur le mois de juin.
Est-ce que pour autant votre scénario est simple, comme certains investisseurs le voient en chaussant un petit peu leurs lunettes roses en disant tout ça va bien se passer, c'est bien piloté par la Réserve fédérale américaine, ou est-ce que vous êtes un petit peu plus prudent?
Écoutez, nous sommes plutôt prudents au sens où, comme l'indique la Réserve fédérale dans ses communiqués, nous allons être dépendants des données macroéconomiques et que nous ne sommes pas à l'abri d'un retournement ponctuel de situation, d'événements géopolitiques qui pourraient venir contrecarrer notre scénario central. Pour le moment, je dirais que les choses se passent à peu près comme on les avait imaginées. On a eu un rebond du marché immobilier, confirmé par les récentes statistiques. La consommation américaine est aussi assez dynamique. L'industrie se reprend, donc nous sommes sur un rythme de croissance instantanée au-delà des 3%. Les choses, je dirais, se récupèrent, on va dire ça comme ça. Le marché de l'emploi reste encore un peu inquiétant, selon d'ailleurs la Réserve fédérale elle-même, qui met en avant notamment la modération des salaires. Et donc, sur ce côté-là, nous restons prudents et il est clair que si le marché de l'emploi ne s'améliorait pas durablement et sensiblement dans les prochains mois, la Réserve fédérale attendrait un petit peu plus longtemps pour relever ses taux.
On a vu tout de même au sein même de la Réserve fédérale américaine qu'il y avait certains, effectivement, membres qui voulaient que ça aille plus vite, que quelque part ils estimaient que l'économie américaine était suffisamment aujourd'hui en bon état pour que la Réserve fédérale arrête la politique actuelle.
Oui, il y en a un notamment qui est depuis quelques mois déjà un peu à contre-courant de la majorité du board, mais c'est aussi le fait de prendre en considération plusieurs personnes avec plusieurs avis et plusieurs types d'analyses différentes, sensibilités différentes, qui fait aussi la richesse du board et lui permet jusqu'à présent en tout cas d'avoir manœuvré relativement bien cette période qui a été très compliquée pour tout le monde comme on a pu le voir.
Alors du côté de la Banque Centrale Européenne, on est dans un autre schéma forcément puisqu'on n'a pas la même conjoncture économique aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que la Banque Centrale Européenne arrive un petit peu tard ou qu'elle arrive un petit peu à la fin de ses moyens, les moyens qu'elle peut mettre en œuvre pour l'économie de la zone euro?
Pour la Banque Centrale Européenne, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que déjà, elle doit gérer 18 économies qui ne fonctionnent pas toutes, malheureusement, de la même façon et donc qui ne réagissent pas toutes de la même façon au seul instrument dont elle dispose. Donc ça, c'est un souci pour la Banque Centrale Européenne. Il nous semble quand même que depuis 2012, en tout cas, elle a montré un pragmatisme à toute épreuve, beaucoup de réactivité. Elle nous a surpris, nous, en tout cas chez CPR Asset Management, à plusieurs reprises, par sa réactivité, justement, et elle a été au-delà de ce qu'on avait en tête. Maintenant, la situation est très compliquée en Europe, et il est clair que nous ne sommes pas sur le même rythme d'activité de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, ceci va conditionner, évidemment, des politiques monétaires très différentes, une moindre accommodation, on va dire, enfin, quelque chose de moins généreux aux États-Unis, et en revanche, côté européen, on va continuer d'assouplir d'une façon ou d'une autre. Donc, elle n'est pas au bout de ses instruments, la Banque Centrale. Elle a indiqué qu'il lui restait d'autres types d'instruments, d'augmenter les capacités de ses achats de titres privés, et pourquoi pas même de passer à un vrai quantitative easing, pour reprendre l'expression consacrée, et donc d'acheter des titres publics.
Alors, c'est, je dirais, ces deux zones, finalement, on a vu que les politique monétaire avait eu des conséquences sur les devises. On a vu l'appréciation du dollar contre l'euro notamment. Est-ce que ça aide justement, ça peut aider en tout cas aussi bien la zone euro et les entreprises européennes?
De toute manière, il nous semble que toute la communication de M. Draghi, en tout cas depuis Jackson Hole, était dans ce sens-là. Depuis même plusieurs mois avant, puisque dans plusieurs communiqués, il faisait mention du niveau de l'euro, alors que ce n'est pas normalement dans ses attributions. Et donc là, il est clair que l'appréciation du dollar contre euro va nous aider, nous, alors Européens, pour tout ce qui est exportation hors zone euro, bien évidemment, mais également pour nous permettre d'éviter de tomber dans la trappe déflationniste en important de l'inflation avec la baisse de l'euro via notamment le dollar.
Alors du côté des pays émergents, on est dans une situation peut-être plus complexe selon les pays. Comment vous abordez-vous ces pays-là? Alors bien sûr la Chine qui est un des premiers d'entre eux, mais globalement les pays émergents.
Alors c'est vrai qu'on parle toujours des émergents et c'est une multitude de situations particulières. Alors le premier, la Chine, nous avons encore été surpris là par des résultats, des statistiques économiques très décevantes concernant le mois d'août. Réaction immédiate des autorités monétaires chinoises qui ont injecté des liquidités. Donc on voit bien, on a vraiment une économie chinoise qui est en train de changer de modèle. Donc ceci prend du temps. On est passé sur un régime de croissance autour de 7,5 et les autorités font ce qu'il faut pour maintenir ce niveau de croissance, le temps de faire, de faire translater le mouvement, le changement structurel de cette économie chinoise. Mais ça prend du temps. Ça modifie la consistance des échanges avec le reste du monde. Et on le voit bien, tous les pays émergents qui vivaient finalement de la demande de produits, de matières premières, typiquement je pense au Chili, au Brésil, qui vivaient donc de cette demande chinoise. Cette demande chinoise étant en repli, ils ont tous des problèmes de dynamique économique.
Sur l'allocation d'actifs, justement, qui, compte tenu de ce qu'on a évoqué ensemble sur les États-Unis, sur la zone euro, sur ces pays émergents, est-ce qu'elle évolue sensiblement ou est-ce que vous restez toujours en faveur des actions, on va dire, jusqu'au moment où il faudra bien peut-être réagir?
Oui, alors c'est vrai qu'on reste, le mot d'ordre de la gestion diversifiée chez CPR Asset Management, c'est la réactivité. Donc on reste très vigilant, évidemment, à l'environnement macroéconomique mondial. Il y a eu des opportunités, il est vrai, sur les émergents depuis quelques mois, quand on a vu les niveaux de taux américains se stabiliser, voire même continuer de baisser, et on a vu les flux d'investissement revenir sur ces émergents. On en a profité à bon escient, je dirais. D'autres sources d'enrichissement viennent du côté du Japon, qui est souvent négligé. C'est compliqué pour la situation japonaise, c'est très très compliqué, mais il y a eu des opportunités, et on l'a vu sur l'été, finalement, c'est l'un des marchés qui a le mieux performé. Sur l'Europe, on était un petit peu en retrait depuis quelques mois et on a su, sur un bon timing, je dirais, revenir sur ce marché européen à un bon moment, mais on reste très vigilant et on saura sortir des positions si l'actualité nous y pousse.
Peut-être le mot d'avant, on a vu que sur les marchés obligataires, finalement, il y a eu des bonnes performances, mais qui ont étonné beaucoup d'investisseurs, puisque avec ces records à la baisse sur certains effectivement, taux, est-ce que ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire ou est-ce que là, il faut être encore plus pauvre, être vraiment très prudent?
Je pense qu'on va arriver vers la fin de ce mouvement de baisse de taux. Enfin, il faut le souhaiter, sinon ça voudrait dire que les économies ne redémarrent vraiment pas. Nous, on a beaucoup joué la réduction des spreads des pays périphériques, l'Italie, l'Espagne surtout. On arrive sur des niveaux quand même excessivement, finalement assez bas pour eux en termes de taux d'intérêt absolu. Compte tenu de l'état de leurs économies, il semble difficile d'anticiper un nouveau resserrement de spreads, enfin très important. Le mouvement est derrière nous, très vraisemblablement.
Merci Laetitia Baldeschi.
Merci.